Bonsoir, soyez les bienvenus et merci à vous d'avoir choisi d'écouter RFI 20h30 ici à Paris et à Kinshasa, 19h30 en temps universel et à Dakar.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et initiative diplomatique des responsables religieux du pays en faveur de la paix. La CENCO et l'ECC ont rencontré des dirigeants de l'AFC M23 à Goma, le président Kagame à Kigali et ce week-end des représentants politiques congolais à Bruxelles. L'Est et le centre-nord du Burkina Faso frappés par une série d'attaques djihadistes ces derniers jours. C'est également dans l'actualité. La fin de la grève des enseignants au Mali après 3 semaines de conflit. Le gouvernement de transition ouvre enfin le dialogue. Les revendications portent sur les primes de recherche. Et puis nous irons au Sénégal où un plan d'austérité a été annoncé. Et parmi les mesures très populaires, celle-là, la baisse des salaires des ministres. Après le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, c'est au tour du président du Congo, Brazzaville, d'exprimer ses inquiétudes. Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier dimanche, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Occupation confirmée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Elle a aussitôt été condamnée par plusieurs chancelleries occidentales qui demandent à Kigali le retrait de ses soldats du sol congolais et l'application d'un cessez-le-feu. Et pendant ce temps, les responsables religieux du pays, catholiques et protestants, multiplient leurs initiatives en faveur de la paix. Après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC M23 à Goma, le président Kagame à Kigali, ils sont désormais en Europe où ils ont rencontré ce week-end à Bruxelles plusieurs représentants de l'opposition politique congolaise. Pauline Azidi.
Ce dimanche, c'est avec Moïse Katumbi et ses proches que les responsables des églises ont échangé. Comme à chaque fois, les religieux ont présenté leur mission, détaillant leur pacte social, mais ils ont surtout écouté. Ils recueillent les points de vue des politiques et des acteurs de la région pour remettre un rapport au président, a expliqué un participant aux échanges. Du côté de Moïse Katumbi, on assure soutenir cette démarche. Il n'y a pas d'autre voie possible, estime-t-on, dans le camp de l'opposant. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table pour se parler, a déclaré le sénateur d'Ensemble Salomon Kalonga. Samedi, les religieux se sont entretenus avec l'ancien député Claudel Loubaya, mais aussi Jean-Claude Mwemba ou encore Franck Diongo, et surtout avec des représentants du FCC, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila. Enfin, la CENCO-ECC s'est aussi entretenue avec le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Alors l'occupation de la ville de Bukavu a été, on l'a dit, condamnée par plusieurs pays, par également des chancelleries occidentales. Et contrairement à Goma, il n'y a pas eu de réel combat dans la capitale du Sud Kivu. La situation était relativement calme aujourd'hui. Ce matin, les habitants ont même commencé à timidement sortir de chez eux, comme nous le dit Josué Kayeye, un ancien de la société civile et un acteur politique.
Nous nous réjouissons d'abord du fait qu'il y a eu de la calmie relative et aussi qu'il n'y a pas eu de morts enregistrées. Tôt le matin, nous avons eu à sortir dehors. Nous avons observé l'engouement des gens, de la population locale qui a pu circuler. Et du coup, il y a eu la circulation du transport en commun. Et les habitants sont sortis pour se ravitailler parce qu'il y avait déjà des petits marchés qui ont ouvert. Par exemple, vers l'hôpital général, avec timidité bien sûr. Même les particuliers n'ont pas encore ouvert, les restaurants, les terrasses n'ont pas encore ouvert comme tel. Il y a encore un peu de réserve pour ouvrir des grandes portes, des grandes boutiques et des grands magasins. Donc dans la ville, il y a eu au moins de l'engouement pour se ravitailler, pour se saluer, pour sortir et pour observer ce qui se passe. En tout cas, l'ambiance est un peu timide, mais au moins, elle était rassurante pour l'instant.
Josué Kayeye, interrogé par Alexandra Brangeon. En bref, en Ouganda, l'opposant historique Kizza Besigye a été brièvement hospitalisé la nuit dernière. Il est en grève de la faim depuis près d'une semaine. Son état de santé s'est dégradé. Selon son avocat, il a été ramené en prison aujourd'hui. Kizza Besigye, ancien médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni, est dans le collimateur du gouvernement depuis qu'il a rallié l'opposition il y a 25 ans. Au Burkina Faso, c'est un détachement de l'armée qui a été ciblé hier par des djihadistes à Séguénéga, c'est dans la région nord du pays. Dernière attaque d'une longue série survenue en moins d'une semaine. Le bilan, on ne le connaît pas encore. Depuis la semaine dernière, au moins 4 localités du nord et de l'est du Burkina ont subi des assauts similaires revendiqués par le djinn d'Al-Qaïda, faisant des victimes civiles comme militaires, selon nos informations. Les explications de Sidi Yansani.
Les 12 et 14 février dernier, ce sont deux assauts qui viennent frapper la région de l'Est. Le premier à Tanwalbougou, près de Fadagourma, où, d'après des sources locales, l'attaque d'un détachement de la gendarmerie a causé la mort de 12 gendarmes et VDP. Le second à Balga, où les djihadistes ont sommé aux habitants d'abandonner leur village par crainte de représailles. Le lendemain, dans la région voisine du centre-nord, c'est un détachement de l'armée qui est visé à Dargo. D'après les témoignages recueillis par RFI, les soldats ont abandonné leur poste devant des terroristes en surnombre. Les assaillants ont filmé leur butin, des armes, des moyens de communication et de transport. Les djihadistes ont aussi mis la main sur un drone de surveillance avant de mettre le feu à la base militaire. Le JNIM, branche locale d'Al-Qaïda, a revendiqué toutes ces attaques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part des autorités burkinabées.
Sidi Yansani, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 20h36, ici à Paris, au Mali. Après 3 semaines d'une grève très suivie, les enseignants-chercheurs ont finalement repris le chemin des universités ce lundi. La coordination syndicale SNESUP SECMA demandait depuis fin janvier l'application d'une prime de recherche. Alors après avoir un temps ignoré ce mouvement social, le gouvernement malien de transition a finalement ouvert la porte du dialogue. Il a mis en place avec les syndicats une commission de réflexion. L'heure est donc à l'apaisement, mais tout reste à négocier. David Bachet.
La commission de réflexion est composée de conseillers du ministère de l'enseignement supérieur, de représentants de la coordination syndicale SNESUP-SECMA et de représentants de la conférence des recteurs d'université. Une première réunion leur a permis de s'accorder sur les objectifs. D'abord, fixer les modalités d'application de la prime de recherche, notamment le calendrier et la question des arriérés, puisque la prime a été créée en 2017 sans jamais être versée. Dans un second temps, sera négocié le montant de cette prime. À terme, la commission devra proposer un avant projet de décret. Une avancée jugée suffisamment constructive par les leaders syndicaux pour suspendre la grève. Dans un message à ses militants, la direction du syndicat SECMA se félicite de la détermination des grévistes. « Nous avons pu faire entendre notre voix », écrit le secrétaire général Bakary Berté. Plusieurs enseignants-chercheurs, membres de la coordination syndicale, confient cependant leurs doutes. La création de cette commission est certes un premier pas, mais la grève est levée sans que rien de concret n'ait encore été acquis. « J'espère qu'ils savent ce qu'ils font », commente un enseignant-chercheur ayant scrupuleusement observé les 3 semaines de grève et qui oscille désormais entre scepticisme et optimisme.
David Bachy.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et partons au Sénégal où le gouvernement a annoncé des mesures d'austérité dans un contexte budgétaire extrêmement tendu et serré. Un rapport récent de la Cour des comptes a même révélé un déficit du budget de plus de 12%. Invité à la télévision publique, le secrétaire général du gouvernement sénégalais, Amadou Al-Aminoulo, a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles la levée d'impôts et surtout la mesure très populaire de baisser les salaires des ministres. À Dakar, la correspondance de Léa-Lisa Westerhoff.
L'ampleur de la baisse et la date de sa mise en application ne sont pas encore connues, mais le secrétaire général du gouvernement s'est voulu catégorique hier. Il va falloir se serrer la ceinture, à commencer par l'État, a affirmé Ahmadou Al-Aminoulo dans une émission télévisée. Les directeurs généraux d'entreprises et les ministres vont devoir baisser leurs salaires, pas les autres fonctionnaires, précise un membre de la communication du gouvernement. Une mesure qui a toutes les chances d'être populaire. Interrogé sur le sujet par le média en ligne Sénéweb la semaine dernière, 83% des 4000 votants ont répondu en faveur d'une baisse des salaires des ministres. Autre annonce, la suppression d'agences de l'État pour réduire les dépenses, mais aussi la fin des subventions du prix de l'électricité pour les industries et les plus riches. Enfin, l'impôt, le gouvernement n'a aucune marge, a expliqué le secrétaire général du gouvernement. Avec une dette à presque 100%, le Sénégal ne peut pas s'endetter plus. Ne reste que l'arme fiscale, a expliqué Ahmadou Al-Aminoulo. Des mesures d'austérité qui interviennent dans un climat social explosif. Le ministre a appelé à des discussions sincères avec les syndicats, alors que les menaces de grève se multiplient. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
RFI, il est 20h40 ici à Paris, 19h40 en temps universel. Et toute l'actualité, c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne soirée à vous.